présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. La France durcit sa politique migratoire. Le gouvernement veut notamment introduire des quotas pour l'immigration professionnelle et instaurer un délai de carence de 3 mois avant que les demandeurs d'asile ne puissent accéder à la protection universelle maladie. 4 ans après les attentats de Paris et Saint-Denis, nous ferons le point sur les indemnisations perçues par les victimes du 13 novembre. Il y a peu de contentieux, mais tout n'est pas réglé, nous dira Antoine Maret. L'Iran réduit encore ses engagements internationaux en matière nucléaire. La Russie et l'Union européenne protestent. Nous ferons le point sur ce dossier avec Christian Chéneau. Et puis Donald Trump propose une aide militaire au Mexique pour lutter contre les cartels de la drogue. 9 Mormons tombés dans une embuscade près de la frontière américaine ont été assassinés. Les décisions seront officiellement dévoilées demain à l'issue d'un comité interministériel sur l'immigration, mais certaines mesures ont déjà fuité. Le gouvernement durcit sa politique migratoire. Il veut instaurer des quotas ou objectifs chiffrés d'immigrés professionnels dès l'été 2020 pour que la France se recrute en fonction de ses besoins de travail. Ces quotas seront établis chaque année en tenant compte de la liste des métiers en tension qui doit être réactualisée. Ce nouveau système d'immigration professionnelle s'inspire de la méthode canadienne où 60% des immigrés sont choisis de cette manière, Olivier Poujade.
Au Canada, la méthode est claire, assumée, même si le terme d'immigration sélective y est également préféré à celui de quota. Chaque année, le gouvernement fixe un certain nombre de compétences, de profils à privilégier pour aider au développement économique du pays. Sur cette base, un système de points est établi et chaque candidat est classé en fonction de son expérience professionnelle, de ses diplômes, de sa maîtrise de la langue, de son âge aussi. Plus le demandeur est jeune, plus vite il sera en mesure de s'intégrer, d'après le gouvernement canadien. Les postulants les plus qualifiés ont aussi la possibilité de tenter l'Express Entry, une démarche en ligne permettant d'empocher une invitation officielle à déposer sa demande. Un score minimum est nécessaire, variable tous les mois en fonction des besoins du pays. Au 30 octobre dernier, 71 700 candidats à l'immigration avaient franchi la barre des 475 points. Des candidats élus, désignés, choisis par le gouvernement pour venir séjourner et travailler au Canada.
La réforme comprendra également un volet santé. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
Sont concernés aussi bien les demandeurs d'asile que les étrangers en situation irrégulière.
Oui, avec un allongement des délais pour bénéficier des dispositifs existants. Pour les demandeurs d'asile, il faudra attendre 3 mois à l'avenir pour accéder à la sécurité sociale de base, alors qu'ils y ont droit aujourd'hui dès le dépôt de leur demande. Et puis on attend aussi des annonces sur l'aide médicale d'État réservée, elle, aux étrangers en situation irrégulière. Aujourd'hui, il faut 3 mois de présence sur le sol français avant de bénéficier de l'AME, mais ceux qui entrent en France avec un visa touristique de 3 mois peuvent, à expiration de ce visa, bénéficier de l'aide médicale d'État. Et bien à l'avenir, ce ne sera donc plus le cas, selon les associations qui ont eu ce matin des précisions de la part du gouvernement. Il faudra prouver avoir été en situation irrégulière pendant 3 mois, ce qui pour les associations va allonger les délais et donc poser des problèmes sanitaires et un engorgement des hôpitaux déjà saturés. Autre mesure, il faudra faire la demande AME directement au guichet de la Sécurité sociale, alors qu'aujourd'hui ça peut être fait par courrier, ce que dénonce Nathalie Godard de Médecins du Monde.
On sait qu'il y a de moins en moins de guichets de la CPAM en France. En Seine-Saint-Denis, le nombre de guichets de la CPAM est passé de 30 à 15 en quelques années. C'est un mouvement national. Ça a été d'ailleurs dénoncé par le Défenseur des droits dans un rapport qu'il a publié cette année sur la dématérialisation de l'accès aux droits. Souvent, les personnes demandeuses d'aide médicale d'État ne parlent pas français. Ça va créer de fait un engorgement des guichets CPAM et des situations où les gens ne pourront pas physiquement déposer leurs demandes. Donc ça va créer du non-recours aux droits.
Alors que Médecins du Monde note déjà un faible taux de recours dans ces centres, 88% des personnes éligibles à l'aide médicale d'État n'y ont pas accès. En tout cas, toutes ces mesures seront examinées dans le cadre du budget 2020 pour une application l'an prochain.
Anne-Laure Jumet et le gouvernement veut aussi durcir les conditions du regroupement familial. Il n'y a pas été question de politique migratoire cet après-midi à l'Assemblée nationale, du moins pas dans l'hémicycle au moment des questions au gouvernement. En revanche, le Premier ministre a été une nouvelle fois interpellé au sujet des violences de ce week-end à Chanteloup-les-Vignes. Dans les Yvelines. La députée Les Républicains Valérie Lacroute a reproché à Édouard Philippe un certain laxisme dans son expression. Après l'incendie du chapiteau de l'école de cirque de la cité de la Noé, le chef du gouvernement avait parlé d'une petite bande d'imbéciles. Aujourd'hui, il a étoffé son vocabulaire.
Lorsque j'ai évoqué une petite bande d'imbéciles, j'ai probablement utilisé une formule de style qui est une litote. Lorsque je dis qu'en posant la question de la façon dont vous la posez, vous mettez le sujet à la hauteur des enjeux, je pratique probablement l'antiphrase. Je veux vous dire, Madame la députée, que le choix du champ lexical, Le choix du champ lexical est un choix qui appartient à chacun des individus. Peut-être sur vos bancs, il y a quelques années, on aurait parlé, plutôt que d'une petite bande d'imbéciles, de racailles. Peut-être que sur certains autres bancs, on aurait parlé de sauvageons. Et peut-être, madame la députée, avez-vous noté que le président du conseil départemental des Yvelines, un homme honorable, il est de votre parti, a parlé de crétins. Chacun utilise le terme lexical qu'il souhaite. L'important, madame la députée, ça n'est pas ce terme. Ce sont les actes et ce sont ce que nous faisons. Et je préférerais que la question pose sur les actes plutôt que sur les adjectifs. Je crois que la République s'en trouverait grandie. Je crois, madame la députée, qu'au-delà des polémiques sur les mots, je veux bien concevoir que ce soit la nature du jeu politique. L'important, c'est ce que nous faisons tous ensemble pour faire prévaloir l'ordre et la République.
Édouard Philippe à l'Assemblée. Air France KLM veut retrouver une position de leader en Europe. Benjamin Smith et les principaux dirigeants du groupe ont dévoilé ce matin la trajectoire d'Air France KLM pour les 5 prochaines années. Priorité est donnée à l'augmentation de la rentabilité, avec un objectif de marge opérationnelle de 7 à 8%, soit le niveau minimum requis pour financer les investissements. Cela suppose, Hakim Kasmi, un effort important pour Air France.
Oui, pour y parvenir face à une concurrence de plus en plus rude, avec d'un côté les compagnies du Golfe et de l'autre les low-cost européennes, comme Ryanair et EasyJet, Benjamin Smith, le nouveau directeur général du groupe Air France KLM, veut donc optimiser les modes de fonctionnement du groupe, de la flotte et les processus. Pour y parvenir, il compte notamment s'appuyer sur le hub de Charles de Gaulle à Paris, première destination au monde, la France, et sur celui d'Amsterdam, premier hub cette fois pour la destination et surtout pour les correspondances en Europe, où réside sa cousine KLM. Ce qui passera aussi par Air France, par une montée en gamme, en privilégiant la clientèle affaires et en ajoutant les classes affaires avec des sièges en plus, car plus rémunérateurs pour la compagnie, mais sans pour une fois supprimer massivement des postes, se félicite Christelle Oster, la secrétaire générale du SNPNC.
On est parvenu, d'ailleurs la semaine dernière, à signer un accord sur les compositions d'équipage à bord des avions, avec diminution de personnel navigant commerciaux en économie, avec une augmentation en parallèle du nombre de stewards et d'hôtesses en business. Donc effectivement, ce n'est pas un plan de réduction à grande échelle, et évidemment, ça nous satisfait en tant que syndicat.
Quant à sa filiale low-cost Transavia, Air France veut en faire la troisième en Europe, après EasyJet et Ryanair. Et pour cela, elle va ouvrir une nouvelle base à Montpellier pour attirer la clientèle loisirs en province, après Nantes et Lyon. Mais pour y parvenir, cela passera aussi, Aurélie, par le renouvellement de sa flotte, avec des avions plus modernes qui consommeront moins de carburant, ce qui a déjà commencé avec des commandes d'A350 et d'A220.
Hakim Kasmi, 107 millions d'euros, c'est la somme des indemnisations versées aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. 4 ans après les attaques aux terrasses de bars, au Stade de France et au Bataclan, à Paris et Saint-Denis, le Fonds de garantie a rendu public ce chiffre ce matin. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Qui est concerné par ces indemnisations?
Alors 2659 personnes pour le moment, 806 sont des proches de victimes, 1267 des blessés psychiques, 586 des blessés physiques. Cette somme de 107 millions d'euros va continuer à croître pour atteindre sans doute les 250 millions d'euros pour plusieurs raisons. La première, c'est que seules 80% des victimes ont reçu une offre d'indemnisation. 40% d'entre elles ne l'ont pas encore acceptée. Puis, chaque année, de nouvelles demandes d'indemnisation sont déposées. Julien Renquier est le directeur général du Fonds de garantie.
Ces victimes, c'est à la fois des victimes gravement blessées par les armes de guerre qui ont été utilisées lors de ces attentats, et qui sont encore dans un parcours de soins particulièrement difficile. Mais c'est aussi des victimes qui ont ce qu'on appelle des blessures invisibles, qui sont blessées psychiquement, qui, dans les premiers temps, ont peut-être refusé de se reconnaître comme victimes, parce qu'elles étaient survivantes. Simplement, avec le temps qui passe, elles sont confrontées aux réminiscences, elles sont confrontées à ce qu'on appelle le stress post-traumatique particulièrement intense compte tenu des moments dramatiques qu'elles ont vécu. Et c'est ces victimes qui, aujourd'hui, se tournent vers les soins et sollicitent le fonds de garantie, ce qui veut dire que leur indemnisation, pour certaines même, démarre aujourd'hui.
Ainsi, une cinquantaine de nouvelles demandes ont été déposées depuis le début de l'année. Les victimes ont 10 ans pour saisir le fonds de garantie, ce qui signifie que pour les attentats du 13 novembre, elles auront la possibilité de le faire jusqu'en 2025.
Antoine Marette. Patrick Balkany était à nouveau cet après-midi devant la cour d'appel de Paris. Le maire de Levallois-Perret, en détention depuis le 13 septembre, a fait une double demande de remise en liberté. La première, liée à sa condamnation pour fraude fiscale, a été acceptée le 28 octobre par la cour d'appel. La seconde était examinée aujourd'hui, liée cette fois à la condamnation de Patrick Balkany à 5 ans de prison pour blanchiment de fraude fiscale. Vous avez suivi cette audience, Florence Thurm.
Bis repetita non placent. Ce qui est répété une deuxième fois ne séduit plus, lance Éric Dupond-Moretti. Je vais donc essayer de dire les choses autrement, commence l'avocat de Patrick Balkany. Ce sont pourtant bien les mêmes arguments que le ministère public et la défense vont répéter au cours de cette deuxième audience, décisive pour une éventuelle remise effective en liberté. L'avocat général Bruno Revel évoque le risque de fuite, pas certain, mais plausible, possible et prévisible pour rejeter la demande en question. Éric Dupond-Moretti s'emporte, il va partir en cavale tout seul à 71 ans. Isabelle va rester là, bobonne à la maison, d'autant que son passeport a été saisi et qu'il est périmé. En accordant la première demande de mise en liberté, le tribunal avait aussi imposé à Patrick Balkany de vivre dans son moulin de Giverny, prononcer un contrôle judiciaire très strict, mais surtout ordonner un cautionnement de 500 000 euros, une somme que le prévenu n'a apparemment toujours pas réunie. La mine défaite, Patrick Balkany se lève en soupirant. 500 000 euros, c'est très difficile. Difficile à trouver, monsieur le président. On me reproche des choses aberrantes, on nous condamne à des peines tout aussi aberrantes, on nous saisit tout. Nous n'avons plus un rond, ni en France, ni à l'étranger, poursuit le maire de Levallois, et je crains que malheureusement, je ne sois obligé de rester au trou.
La décision sera rendue le 13 novembre. Un rapide mot de l'actualité littéraire. Le prix Fémina récompense Par les routes, huitième roman de Sylvain Prudhomme publié chez l'Arbalète Gallimard. Ce livre, dont le personnage central est un autostoppeur, avait déjà reçu le prix Landerneau des lecteurs le mois dernier. La Russie et l'Union européenne font part de leurs préoccupations. L'Iran a annoncé vouloir reprendre ses activités d'enrichissement d'uranium dans son usine de Fordo à 180 km au sud de Téhéran. Activité jusque-là gelée pour se conformer à l'accord de Vienne de 2015 sur le nucléaire iranien. Depuis le retrait américain de l'accord en mai 2018, l'Iran fait pression sur ses partenaires en relançant très progressivement ses activités. Bonsoir Christian Chéneau.
Bonsoir.
Comment doit-on interpréter cette nouvelle étape dans la réduction des engagements iraniens ?
Écoutez, cette quatrième étape du plan de réduction des engagements iraniens est conçu comme une nouvelle riposte au retrait unilatéral américain de l'accord de Vienne. Comme les précédentes décisions iraniennes, il s'agit là d'une escalade calculé pour gagner du temps. Nous souhaitons rester dans l'accord de Vienne, nous assure en privé un diplomate iranien. Toutes les mesures que nous prenons sont immédiatement réversibles, tient-il à ajouter, car malgré ce nouveau coup de canif, le président Hassan Rouhani affirme que les centrales iraniennes restaient sous le contrôle de l'AIEA, le gendarme nucléaire de l'ONU, comme pour signifier que l'Iran continue de respecter la légalité internationale. Alors en sortant progressivement des clous, Téhéran espère convaincre les Européens de mettre en place des mesures de contournement de l'embargo économique et financier imposé par les États-Unis. C'est un appel au secours. Or jusqu'ici, rien de concret n'a permis de desserrer les taux américains. Instex, le mécanisme européen de troc commercial, n'a jamais vu le jour, au grand dam des Iraniens qui reprochent à Paris, Berlin et Londres de céder aux diktats américains. Emmanuel Macron a bien tenté une médiation entre Washington et Téhéran, mais qui jusqu'ici s'est soldée par un échec, même si en coulisses, les efforts continuent. À ce stade, Donald Trump refuse toujours que l'Iran exporte la moindre goutte de son pétrole. L'impasse est donc totale, autant dire que les nouvelles mesures iraniennes aggravent encore un peu plus une crise sans solution à l'horizon.
Christian Chéneau, le gouvernement yéménite et les séparatistes du Sud ont conclu un accord de cessation des hostilités. Annonce faite par le prince héritier du trône saoudien, Mohamed Ben Salman, qui a joué les intermédiaires. D'après lui, cet accord de Riyad est une étape sur la voie d'une solution politique au conflit yéménite. On a pour l'instant peu de détails sur cet accord. Il prévoit notamment un remaniement du gouvernement pour y intégrer des représentants des séparatistes. Au Mexique, 3 femmes et 6 enfants sont morts hier, attaqués par un groupe armé sur une route du nord du pays, près de la frontière avec les États-Unis. Les victimes appartenaient à une famille très connue dans tout le pays pour avoir dénoncé la violence des cartels de la drogue. L'attaque contre cette famille, dont les membres ont aussi la nationalité américaine, a fait rapidement réagir Donald Trump. Le président américain propose au Mexique l'aide des États-Unis pour mener une guerre contre les cartels. La correspondance d'Emmanuel Stills.
Parfois, il faut une armée pour mettre en déroute une armée, selon Donald Trump. Si le Mexique a besoin d'aide pour chasser ces monstres, les États-Unis sont prêts. C'est l'offre du président américain au Mexique suite à l'attaque perpétrée lundi contre une famille américano-mexicaine. Le président Andrés Manuel López Obrador a décliné la proposition de lancer une guerre conjointe contre les cartels. Il insiste depuis le début de son mandat il y a un an pour privilégier la non-confrontation avec le crime organisé, réfutant la possibilité de lutter contre la violence par la violence. Mais selon la presse mexicaine, plusieurs actions spectaculaires menées par les cartels récemment ont mis en évidence l'absence de stratégie du président pour rétablir la sécurité. Le massacre de lundi a particulièrement choqué les Mexicains qui entendent depuis longtemps parler d'El Barón, une famille de Mormons venus des États-Unis et qui a établi une communauté agricole dans l'état du Chihuahua. Ils sont connus et respectés dans tout le pays pour avoir dénoncé la corruption et prôné la résistance face aux cartels, très présents dans cette zone. Cet engagement a déjà coûté la vie à plusieurs membres de la famille assassinés par des groupes criminels. Depuis quelques mois, les Le Baron dénonçaient à nouveau le harcèlement des cartels, en particulier sur les routes autour de leur communauté.
Emmanuel Stills à Mexico pour France Culture. En Palestine, la récolte des olives touche à sa fin. C'est la culture principale en Cisjordanie, mais dans les secteurs encore occupés par Israël ou colonisés, le travail des paysans est rendu très difficile. Depuis 18 ans, une ONG israélienne se rend régulièrement sur place. Les volontaires de Rabbis for Human Rights, les rabbins pour les droits de l'homme, aident les paysans pour la cueillette et tentent de les protéger pacifiquement. Mais ça n'est pas toujours simple, comme le montre ce reportage de Frédéric Mettezo dans un champ de bourrine près de Naplouse, au nord de la Cisjordanie.
Des olives comme s'il en pleuvait. Les volontaires secouent les arbres, puis ils cueillent les olives qui tombent sur une bâche en plastique. Ils surveillent aussi la colline, car en haut, c'est la colonie juive d'Itzar, dont les habitants sont parmi les plus fanatisés de la région. Deux jours avant, ils ont incendié des arbres et tabassé un rabbin de 80 ans venu aider Mohamed, le cultivateur.
Le fait qu'il y ait des Israéliens ou des internationaux ici, ça décourage les colons de venir sur ma terre. Malheureusement, ça n'a pas suffi il y a deux jours, mais c'est quand même une sécurité pour nous. C'est bien. Quand les colons descendent, les gens peuvent prendre des photos avec leur smartphone et montrer ce qui se passe en temps réel.
Les bénévoles sont des Américains ulcérés par la politique de Donald Trump, des Sud-Africains qui se souviennent de l'apartheid. Maria est anglaise d'origine polonaise. C'est une habituée des lieux.
C'est la septième fois. C'est très difficile pour les Palestiniens. Je me suis dit, je dois faire quelque chose, je ne peux pas rester seulement lire. Mes grands-parents étaient juifs, les parents de ma mère, la sœur et le frère de mon mère ont été tués pendant la guerre.
L'une des responsables de l'association est une Israélienne, Nava Efetz, et rabbin.
Ce qui se passe ici dans les territoires occupés ne coïncide pas avec l'éthique juive, avec la morale juive. Violation des droits humains et de l'image divine.
Et ces colons, qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Ah, pour eux, on est des traîtres. Alors qu'ils ne comprennent pas qu'il y a ici une asymétrie.
Une asymétrie bien visible quand une quinzaine de militaires israéliens viennent expulser le cultivateur et les bénévoles. Shlomi, la soixantaine, est un bénévole israélien. Plus jeune, il a fait l'armée et il regarde tristement ses compatriotes.
C'est déprimant, mais malheureusement la plupart de ces jeunes gens se sont fait laver le cerveau. Et ils font ce qu'on leur a dit de faire. On connaît très bien l'histoire. Quand des gens obéissent aux ordres sans penser, sans réfléchir, c'est important d'être avec les victimes, avec les faibles. Et ce sont eux les faibles, pas nous. Les Palestiniens ne peuvent pas seuls faire face aux colons, à la police et à l'armée. C'est une tragédie, notre tragédie, pas seulement celle des Palestiniens. C'est aussi une tragédie israélienne.
L'expulsion s'est déroulée sous l'œil goguenard d'un colon qui avait garé son 4x4 juste à côté des véhicules militaires. Mais cette entente d'un jour n'a pas empêché d'autres colons d'attaquer des soldats israéliens quelques jours plus tard.
Reportage signé Frédéric Mettezo. Emmanuel Macron poursuit sa visite en Chine, la deuxième en deux ans. Demain, avec son homologue Xi Jinping, il doit aborder les grands dossiers comme la lutte contre le réchauffement climatique après l'annonce du retrait américain de l'accord de Paris sur le climat. Aujourd'hui, le chef de l'État a inauguré le centre Pompidou de Shanghai, première implantation hors d'Europe du musée d'art parisien. Il a aussi inauguré, aux côtés du président chinois, la foire aux importations de Shanghai, dont la France est l'invité d'honneur cette année. L'occasion d'appeler la Chine à ouvrir davantage son marché aux entreprises étrangères et à coopérer avec l'Europe. Demain mercredi, le temps sera généralement maussade avec des pluies ou des averses passagères, averses qui seront plus fréquentes en matinée dans le sud-ouest et en Corse. Il neigera sur les Alpes du Nord et les Pyrénées au-dessus de 1300 mètres d'altitude. En bord de Méditerranée, le soleil l'emportera avec un peu de mistral et de tramontane. Les températures iront de 4 à 13 degrés le matin. L'après-midi, il fera 8 à 12 du nord-est au centre-est, 10 à 15 ailleurs, 16 à 19 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.